France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La morale, selon le philosophe Emmanuel Kant, c'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, nos devoirs moraux sont-ils dictés par la raison ? Kant dit que oui, pourquoi en est-il si sûr ? Cette immense figure de la philosophie allemande du XVIIIe siècle est affirmative. Notre sens moral ne vient pas de Dieu, ni des religions qui parlent en son nom, ni d'une présence immédiate de la voix divine en nous. Il ne vient pas non plus de notre sensibilité, des émotions que suscitent en nous les autres, comme le disaient les penseurs des Lumières écossaises, par exemple, à la même époque que lui. Emmanuel Kant est ferme, c'est la raison qui nous dicte des devoirs. Mais attention, non pas une raison calculatrice, essayant de ménager plusieurs intérêts ou plusieurs considérations touchant au bien-être des uns et des autres, tentant de hiérarchiser tout cela, de définir des priorités. Non, cette raison-là est celle des utilitaristes ou des pragmatistes. Kant ne veut pas en entendre parler. Lui évoque une raison pratique, très différente de la raison théorique caractérisant le domaine de la connaissance et des calculs. La raison pratique kantienne formule des impératifs catégoriques qui ne souffrent pour leur application aucune condition, aucune prise en compte complexe de la situation empirique, concrète dans laquelle nous nous trouvons. Pour Kant, une voix en nous dit très vite et clairement ce qu'il faut faire ou ce qu'il est interdit de faire. Toujours, c'est lumineux et c'est un commandement absolu provenant de l'intérieur de nous-mêmes. Comment fonctionne cette raison pratique ? Peut-on d'ailleurs l'éclairer parfaitement ? Je ne manquerai pas de demander tout cela aux invités de ce matin, d'autant que Kant lui-même, dans son ouvrage de 1785, « Fondement de la métaphysique des mœurs », écrivait que la raison est forcée d'admettre ce commandement inconditionnel sans pouvoir se le rendre parfaitement compréhensible, je cite. Mais au moins, ajoutait-il, pouvons-nous comprendre son incompréhensibilité, je cite toujours. Impressionnante déclaration. Bonjour Maëlle Kant.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Lyon 3 Jean Moulin, spécialiste de philosophie allemande moderne et singulièrement de l'œuvre d'Emmanuel Kant. Vos travaux sont précisés sur notre site, tout comme ceux de notre autre invité. Bonjour François Callory.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences de philosophie à l'université de Rennes, spécialiste de philosophie morale et politique du XVIIIe siècle. Avec vous, nous pourrons notamment situer Kant par rapport à d'autres philosophes qui, dans l'histoire, réfléchissent à la morale plutôt en se tournant vers la sensibilité et vers l'affectivité, ce qui révèle l'originalité de Kant. Nous allons dans un instant introduire, texte à l'appui, la notion kantienne absolument décisive pour comprendre sa théorie morale, c'est-à-dire la notion d'impératif catégorique. Mais auparavant, j'aimerais que vous précisiez quelles sont les grandes œuvres auxquelles on se réfère lorsqu'on s'intéresse à la morale selon Kant et comment ces œuvres se situent à l'intérieur de l'œuvre globale de Kant. Maëlle Kant.
Alors, avant de traiter de la morale, Kant s'est intéressé à beaucoup d'autres questions, notamment autour du savoir, des questions de connaissance. Et il a publié notamment, dans sa première édition, La critique de la raison pure, en 1781, qui répond à l'une des trois grandes questions fondamentales de la raison, à savoir, que puis-je connaître ? Et dans cette critique de la raison pure, Kant a distingué un usage de la raison théorique, qui est la raison, disons, connaissante, qui est double. Soit la raison théorique est pure, c'est-à-dire elle connaît indépendamment de l'expérience, soit elle est empirique, c'est-à-dire elle a besoin des éléments tirés de l'expérience. Et la conclusion qu'il en a tirée dans la critique de la raison pure, c'est qu'au fond, la raison théorique, lorsqu'elle est pure, est illégitime. Elle se fourvoie dans des erreurs, dans des illusions. Tandis que lorsqu'elle est empirique, ou en tout cas lorsqu'elle vise l'horizon de l'expérience, elle est parfaitement légitime.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance métaphysique ?
Alors, il existe malgré tout des connaissances métaphysiques, et j'en veux pour preuve le fait que Kant a lui-même rédigé deux métaphysiques, une métaphysique de la nature et une métaphysique des mœurs ou de la liberté. Donc il existe bien une métaphysique, mais qui est refondée, qui est reformulée, qui est révolutionnée littéralement, qui est dédogmatisée, c'est-à-dire qui est allégée de toutes ces scories, ces erreurs, ces illusions transcendantales que la raison pure théorique peut conserver avec elle. Et en particulier, Kant va, après la critique de la raison pure, s'intéresser aux questions de morale, et il va d'ailleurs écrire, rédiger une métaphysique des mœurs, en trois temps. On peut dire que les grandes œuvres de Kant de philosophie morale se déclinent en trois temps. On a le premier temps, dont on entendra tout à l'heure un extrait, qui est donc « Les fondements de la métaphysique des mœurs » de 1785, où il pose les fondements de cette métaphysique de la liberté pure, rationnelle pure. Puis il rédige en 1788 la critique de la raison pratique, qui va développer les fondements de la métaphysique des mœurs dans une direction plus synthétique qu'analytique. Et pour finir, il rédigera en 1797 une métaphysique des mœurs proprement dite, qui se décline en deux volets, un premier grand livre qui est la doctrine du droit et un deuxième grand livre qui est la doctrine de la vertu. Et donc sa morale est constituée de tout cet ensemble, des fondements à la doctrine de la vertu, en passant par la seconde critique de 1788.
François Callery, est-ce qu'on peut dire tout de même que tout ce qui est au-dessus de l'expérience possible, qui quand même correspond souvent à ce qu'on appelle la métaphysique, Kant est soucieux de, dans ce domaine, de limiter notre savoir, de dire que là, il y en a quasiment pas, enfin, on ne peut pas. Et par contre, il sauverait ce domaine d'une autre manière. Vous pourriez expliquer s'il vous plaît.
Oui, c'est un point très, très important. L'entreprise critique elle-même se présente pour Kant comme une entreprise de délimitation. C'est-à-dire qu'il nous faut asseoir la légitimité de la connaissance. Hein, de quel droit peut-on avoir une connaissance, et notamment une connaissance a priori. Et ce que va montrer Kant dans la critique de la raison pure, c'est que la connaissance n'est légitime qu'à l'intérieur des limites de l'expérience. Elle ne dérive pas tout entière de l'expérience, puisque la connaissance n'est pas seulement en empirique, il y a ce qu'il appelle une connaissance a priori, donc une connaissance qui n'est pas fondée sur l'expérience, mais tous les éléments a priori de la connaissance n'ont de sens et de validité que rapportés à l'expérience comme connaissance de l'expérience et de la nature. Mm-hmm. Dès lors, dans l'usage théorique de la raison, toute tentation de vouloir dépasser les limites de l'expérience est, pour Kant, une tentation illégitime qu'il nous faut récuser. Donc, du côté du savoir, du côté de la connaissance, du côté des preuves, par exemple, de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, même la démonstration théorique de la liberté, cette voie de la connaissance est une voie qui est désormais définitivement refermée par Kant. C'est pas une ignorance provisoire, c'est véritablement une limite qui est posée par Kant et une limite infranchissable.
On ne peut pas savoir des choses.
On ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir de connaissance de ce qu'il appelle le suprasensible, c'est-à-dire ce qui dépasse les limites de l'expérience. En revanche, ce qu'on va voir à partir de l'élucidation du commandement pratique, de la loi morale, c'est-à-dire à partir de ce que la raison met dans son usage pratique, orienté sur l'action, nous commande, et nous commande, on va le voir, impérativement, catégoriquement, on va voir qu'il y a un certain nombre de gains qui vont être possibles théoriques, mais seulement dans ce qu'il appelle l'horizon d'une foi rationnelle, qui n'est pas un savoir, qui n'est pas adossé à la preuve, hein, mais pour pouvoir établir cela, encore faut-il d'abord avoir élucidé la nature de ce commandement moral et comprendre comment ce qui a été retiré d'un côté au savoir peut être rendu de l'autre dans la forme d'une foi, mais d'une foi qui est une foi entièrement rationnelle parce que fondée uniquement sur la raison pratique.
Ça veut dire que la raison, excusez-moi, pour bien comprendre, la raison pratique, la raison quand elle fonctionne dans le domaine pratique, moral, elle est pure, elle. C'est-à-dire, elle fonctionne avant toute expérience, au-delà de toute expérience, et nous sommes les seuls êtres vivants à avoir cette instance exceptionnelle, suprasensible, métaphysique, pourrait-on dire, en nous. Alors, autant la raison pure théorique est condamnée, autant la raison pure pratique, non seulement est validée, mais est très importante.
Elle est légitimée, hein, et elle est pure au sens où elle ne repose pas sur l'expérience. Comme vous l'avez dit pour commencer, elle ne repose pas sur la sensibilité, elle ne repose pas non plus sur une raison qui serait simplement orientée sur un calcul d'utilité, par exemple, comme l'utilitarisme le montrerait à la même époque, qu'elle commence à naître à cette époque-là. Hein, mais véritablement, il y a un commandement de la raison qui s'impose à nous de façon a priori, et qui est, je dirais, consubstantielle à la raison elle-même, au sens où, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la distinction que fait Kant entre l'usage théorique et l'usage pratique, c'est que si la morale kantienne, comme on dit, est fondée sur la raison, et donc un rationalisme pur, oui. Ça n'est pas un intellectualisme, et ça c'est l'erreur qu'on pourrait commettre, ça n'est pas un intellectualisme au sens où il ne s'agit pas ici de quelque chose qui relèverait d'une connaissance théorique, d'une preuve, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être savant, d'être philosophe, d'avoir lu Kant, les fondements d'Alfred Zimmer, pour savoir ce que nous devons faire. Il y a quelque chose qui est présent en chacun de nous, de par la raison elle-même, et même la personne la plus ignorante est déjà suffisamment équipée pour savoir ce qu'elle doit faire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une morale kantienne, si on croit par là, que Kant aurait découvert quelque chose de nouveau qu'il proposerait au monde en disant « voilà ce qu'il faut faire », mais il y a une élucidation kantienne de la morale qui est en fait la morale commune que nous tous nous entendons dans la voix de notre conscience et qui nous dit « tu dois, tu ne dois pas ». Et tout le travail de Kant va être d'élucider ce qu'on entend par là, qu'est-ce que c'est que le devoir et pourquoi s'impose-t-il à nous avec cette signification d'une véritable loi, c'est-à-dire d'un commandement qui se veut universel et qui se veut nécessaire, avec une catégoricité à laquelle nous ne pouvons pas échapper.
Vous qui êtes spécialiste de philosophie morale et politique, vous savez bien qu'il y a déjà eu, avant Kant, et notamment dans l'Antiquité, des philosophes, Platon, Aristote, qui pensaient que le logos, donc la raison, elle permet de connaître, mais elle permet aussi d'entendre la voix du bien. Est-ce que Kant ne fait que reprendre cela? Ou est-ce qu'il introduit quelque chose de nouveau, d'inédit, dans sa conception de la raison morale ou pratique?
Il reprend très certainement cet héritage d'un rationalisme qui, dans la philosophie, s'est affirmé, comme vous l'indiquez, depuis l'Antiquité. Mais il donne un sens tout à fait nouveau, justement par l'idée d'un commandement immédiat de la raison qui ne repose pas sur un savoir. Il y aurait une opposition peut-être à une forme de platonisme, si par platonisme, en tout cas c'est la façon un peu générale qu'on a de s'y référer au XVIIIe siècle, on entendait par là quelque chose qui relèverait d'un pur travail théorique, d'une connaissance qui serait justement une connaissance des idées, une connaissance
et du
suprasensible.
Et de l'ordre du monde, pour les Grecs anciens.
Exactement. Hein. Oui. Et chez Aristote, la distinction serait aussi forte, dans la mesure où l'éthique aristotélicienne, elle, est adossée à cette vertu de la prudence qui est tellement mise en valeur dans l'éthique à Nicomaque, oui. Là où l'éthique kantienne n'est pas une éthique de la prudence, n'est pas fondée sur quelque chose qui relèverait de la vertu de prudence, qui, elle, relève d'un autre type d'impératif que l'impératif moral. Je pense que Maï...
Oui, j'aimerais bien que Maï Le Camp explique bien ce point. Quelle est la différence entre la raison morale d'Emmanuel Kant et le logos, la raison des anciens, aussi bien Platon qu'Aristote, même s'il y a des différences entre les deux, qui eux aussi nous disaient que ce logos donnait des ordres moraux, enfin liés à une vision du monde. La vertu pour les anciens, c'était bien quelque chose de rationnel également. Quelle est donc la différence chez Kant?
Alors, la position de Kant par rapport aux anciens, aux Grecs en général, et notamment à Platon et Aristote, il faut peut-être commencer par rappeler ce point, et une connaissance de seconde main. Il ne lit pas ses textes dans le grec, il ne les étudie pas de façon littérale, mais il les connaît essentiellement par les manuels d'histoire de la philosophie de l'époque. Et pour ce qui concerne Platon, très clairement, Kant rejette en Platon la dimension élitiste de sa morale, c'est-à-dire l'idée que la vertu pourrait, sinon être une connaissance, du moins reposer sur un savoir rationnel du logos, comme vous le disiez. En revanche, il joue contre Platon la figure de Socrate et d'un socratisme qui lui appartient. Je ne dis pas que c'est le vrai Socrate qui était tel, mais Kant aime à reconstruire une figure de Socrate. À plusieurs reprises, il cite Socrate, notamment dans la doctrine de la vertu et dans les fondements de la métaphysique des mœurs, en faisant de Socrate celui qui, au contraire, est capable, par sa méthode à la fois dialogique et par sa méthode maïotique, de faire accoucher l'âme elle-même de vérité qu'elle a toujours déjà en elle. Et en un certain sens, la raison pure pratique de Kant et cette voix intérieure qui parle en nous d'une voix d'airain, qui est la loi morale, c'est cette voix que le socratisme pourrait ou aurait pu nous faire entendre et finalement il aurait pu dégager tout aussi bien cette rationalité pratique intérieure. Du côté d'Aristote, Kant est évidemment tout à fait au fait des livres de l'éthique à Nicomaque qui portent sur la phronésis, sur la prudence. Il lui réserve d'ailleurs une place importante dans sa cartographie des différents impératifs et devoirs qui incombent à l'homme. Il y a une partie de ces impératifs qui reprend le concept de prudence tel qu'Aristote a pu le thématiser. Et il emprunte aussi, et peut-être surtout à Aristote, une définition du souverain bien, alors qui n'est plus exactement le bonheur, le souverain bien chez Kant, l'idéal du souverain bien tel que la raison pure pratique le pense, n'est pas le bonheur au sens où Aristote pouvait le penser, mais il y a néanmoins un point commun avec Aristote, que ce bonheur, que Kant appelle d'ailleurs plutôt un contentement, il doit être la conséquence de la vertu. Et il définit lui-même, Kant définit lui-même le souverain bien, l'idée du souverain bien, comme cette alliance harmonieuse, comme cette synthèse a priori, entre la vertu morale d'une part et la conséquence qui est censée en résulter et qui est ce bonheur ou ce contentement de l'âme.
Et puis il y a peut-être encore une autre différence avec Aristote, c'est que la prudence selon Aristote, c'est prend en compte énormément de données de l'expérience empirique. Justement, c'est la juste mesure entre des tas d'enjeux qui se jouent dans une situation concrète. C'est pour ça que la phronésie s'adapte tout le temps à la situation. Or, justement, Kant considère que le devoir moral, c'est pas une adaptation. Ça se donne a priori, au-delà de toute expérience. Il y a quelque chose d'ailleurs là d'un peu énigmatique.
Tout à fait. Dans l'impératif catégorique moral, dans cette structure de la loi morale qui parle en nous, Kant dit bien que cette loi morale, elle se suffit à elle-même et qu'à travers elle, la raison pure pratique se suffit à elle-même. Elle est autonome, auto-législatrice, il le répète à maintes reprises. Il va même jusqu'à dire qu'elle est autocratique. Il parle d'autocratie, der reinen Vernunft, der reinen praktischen Vernunft, dans la doctrine de la vertu, c'est-à-dire l'idée que la raison pure pratique à elle-même suffit sans recours à aucune expérience, sans recours à aucune connaissance du monde, à titre de complément. Alors que dans les impératifs hypothétiques, au contraire, la raison a besoin de l'expérience, de l'imagination et de beaucoup d'autres ingrédients dérivés de l'expérience.
Justement, nous allons entrer dans le vif du sujet, cette distinction qu'établit Kant entre les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques, l'impératif moral relevant de la deuxième sorte, ce sont des impératifs catégorique. Alors pour bien comprendre, revenons au texte. Voici un extrait des Fondements de la métaphysique des mœurs, cet ouvrage d'Emmanuel Kant de 1785.
Tous les impératifs commandent ou hypothétiquement ou catégoriquement. Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque autre chose que l'on veut, ou du moins qu'il est possible qu'on veuille. L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour elle-même et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement. Puisque toute loi pratique représente une action possible comme bonne et par conséquent comme nécessaire pour un sujet capable d'être déterminé pratiquement par la raison, tous les impératifs sont des formules par lesquelles est déterminée l'action qui, selon le principe d'une volonté bonne en quelque façon, est nécessaire. Or, si l'action n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose, l'impératif est hypothétique. Si elle est représentée comme bonne en soi, par suite comme étant nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison, le principe qui la détermine est alors l'impératif catégorique.
Nicolas Berger, notre réalisateur, lisait ce texte de Kant, très célèbre. Je crois savoir, Maëlle Kang, que vous commencez toujours comme ça, vous cours sur la morale de Kant. Je vous laisse donc le premier commentaire avant que nous ayons une discussion. Expliquez-nous un petit peu.
Dans cet extrait, Kant distingue, on le voit, deux grands genres d'impératifs. Les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques qui tous régissent nos actions. Mais il faut ajouter peut-être que
on
quelques lignes...
Vous pouvez expliquer plus les mots,
oui.
Ce que ça veut dire.
Alors, hypothétique, ça signifie que l'action est nécessaire seulement de façon relative et qu'elle l'est à travers un impératif qui prend une forme grammaticale conditionnelle. Si nous voulons telle fin, alors recourons à tel moyen. Tandis que l'impératif catégorique, lui, l'impératif catégorique moral par conséquent, a une structure grammaticale inconditionnelle. Il n'a pas besoin de passer par le « si alors », il dit d'emblée « tu dois ». Alors pas un « tu dois » vide, naturellement, un « tu dois » qui est amené à être rempli par une matière déterminée d'action. Par exemple, « tu dois dire ce que tu penses être le vrai », »,« tu dois tenir tes promesses », »,« rembourser tes dettes », »,« tu dois travailler à améliorer et à parfaire tes facultés naturelles ». Il y a évidemment un contenu qui est visé in fine. Mais ce que Kant dit, c'est que l'impératif hypothétique poursuit une fin qui peut être soit possible, soit réelle, mais toujours sous la forme du « si alors ». Alors que notre impératif catégorique moral, lui, est un commandement inconditionnel, comme le dit Kant en allemand, un Gebot, c'est-à-dire une exigence absolue qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, et plus précisément de l'intérieur de notre rationalité pure pratique. Toutefois, au-delà de cette grande dichotomie entre les hypothétiques et les catégoriques, Kant va un tout petit peu plus loin dans les lignes qui suivent notre texte, et il distingue au sein des impératifs hypothétiques eux-mêmes deux sous-catégories qui sont extrêmement importantes aussi pour la vie pratique de l'homme et qui, tout en existant dans l'ombre de l'impératif catégorique moral, ont aussi droit de cité dans l'agir humain. Il distingue d'abord l'impératif hypothétique d'habileté, qui est un impératif technique, qui poursuit une fin et des moyens qui sont seulement possibles, qui sont seulement contingents. On n'est pas obligé de poursuivre la fin, par exemple, de vouloir construire un pont solide. On peut aussi vouloir construire un pont qui n'est pas solide, qui est éphémère. Et cet impératif, quand ce premier impératif hypothétique, donc d'habileté ou technique, qu'on trouve dans les arts, dans les sciences, il est qualifié par Kant de seulement problématique. C'est-à-dire qu'il répond à des problèmes de l'art ou de la science et il vise une fin qui est elle-même possible ou contingente parmi quantité d'autres fins possibles. Et puis il y a un deuxième type ou sous-type d'impératif hypothétique, c'est celui dont on parlait à l'instant à travers Aristote et la phronésis, qui est l'impératif de prudence. C'est un impératif pragmatique qui est lié à notre intelligence pratique et qui poursuit, quant à lui, une fin réelle. Et une fin qui est légitime pour tout être raisonnable fini, donc pour tout homme que tout un chacun poursuit, qui est le bonheur. Et il le fait en énonçant des conseils empiriques. Et ce deuxième impératif hypothétique, Kant l'appelle assertorique. Pourquoi ? Parce qu'il affirme, parce qu'il pose une fin qui est universelle, que tous les hommes poursuivent sans exception, et qui est le bonheur.
Alors maintenant, on va un peu discuter quand même, si ça ne vous ennuie pas, François Calori. L'impératif catégorique moral, c'est très important pour Kant de dire qu'il advient sans condition, sans prise en compte d'une finalité, d'un but, etc. Mais est-ce que ça veut dire que si quelqu'un se dit « Bon, dans ces situations, si je veux bien obéir à ma religion, à Dieu, je dois être moral, je dois écouter la voix intérieure. » Ou si quelqu'un se dit « Je veux être quelqu'un de bien, je suis soucieux d'être quelqu'un de bien et c'est pourquoi je vais écouter la voix morale. » En réalité, pour Kant, ces personnages-là, qui parlent ainsi, ne sont pas pleinement moraux.
Non.
Alors ça, je voudrais comprendre.
Ils ne sont pas pleinement moraux parce que, justement, ils transforment l'impératif catégorique en impératif hypothétique. C'est-à-dire qu'ils subordonnent le commandement moral, qui est le leur, à une condition qui est, dans le premier cas, plaire à Dieu, de telle sorte que j'assure mon salut, ou... Et donc, et dans le deuxième cas, plaire à la réputation, enfin, assurer ma réputation et plaire à la population qui m'entoure. Mais dans chaque cas, il n'y a pas ici un commandement qui soit pleinement inconditionné, puisque on fait référence toujours à une autre valeur qui a été posée auparavant et qui serait justement la valeur du salut ou la valeur de la réputation, mais qui toutes, en dernière instance, manquent à une des conditions fondamentales de la moralité par Kant, qui a été posée en un sens un petit peu en deçà dans le texte des fondements, qui est la nécessité que l'action soit véritablement accomplie par devoir et non pas seulement conformément au devoir. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante que Kant pose principalement. L'action qui est conforme au devoir, elle respecte le devoir. Dans les exemples que vous avez donnés, hein, la personne qui respecte la loi parce que Dieu lui a commandé ou qui veut assurer sa réputation et apparaître comme quelqu'un de bien aux yeux de, de ses contemporains, ici, elle est bien conforme au devoir, mais elle demeure une action profondément intéressée. Elle est intéressée et en fait, ce que cherche à montrer Kant, c'est que derrière cette prétendue obéissance au devoir, il y a véritablement un calcul d'intérêt et quelque chose qui vise en dernière instance le bonheur. La personne qui n'obéit à Dieu que parce que c'est le commandement et que parce qu'elle a peur du châtiment divin ou parce qu'elle espère un bonheur à venir, une récompense à venir, en fait, ne travaille que pour son bonheur de façon égoïste, centrée sur elle-même et non pas dans l'exigence de décentrement par rapport à soi qui est aussi l'exigence de l'impératif catégorique. Et de la même façon, pour la personne qui, voulant s'assurer une bonne réputation, veut jouir de la réputation qu'elle aurait d'être justement une bonne personne. Là où le commandement moral pour Kant doit être ici, l'action morale, elle ne peut être accomplie que par devoir. C'est-à-dire que le devoir doit être le mobile de mon action, doit être le principe déterminant de la décision qui me pousse à agir et non pas en fonction des conséquences qui pourraient être les miennes dans une vie future ou dans la vie présente avec mes concitoyens. Et cette distinction-là, elle est absolument essentielle, qui fait que l'action morale ne peut être que désintéressée. Et le commandement catégorique ne peut donc pas viser à un intérêt qui serait posé dans une valeur distincte de la moralité elle-même.
Alors cela veut dire manifestement que Kant considère comme suspecte toute satisfaction autour de l'accomplissement de la loi morale. Quelqu'un qui est trop satisfait d'être quelqu'un de bien écouter la morale, c'est suspect. Il n'est pas vraiment moral. Il faut que ça souffre un peu quand même.
Alors, oui, on peut retenir cette idée-là sans pour autant basculer dans une idée qui serait de faire de Kant quelqu'un de morose et qui ne verrait dans la morale que ne pouvant s'accomplir que dans une forme de tristesse et de violence à l'égard de soi-même seulement. Hein, c'est qu'il faut retenir c'est les deux dimensions à la fois. La première dimension, c'est que oui, de toute façon, pour Kant, nous ne pouvons jamais être certains d'avoir accompli une bonne action, d'avoir véritablement agi par devoir.
Ce tourment est assez important.
Oui, il y a une incertitude, et une incertitude qui est liée au fait que nous ne connaissons pas le fond de notre cœur, qu'il y a toujours quelque chose qui peut être dissimulé, et que l'intérêt peut ressurgir là même où nous croyons nous en être débarrassés. Et donc nous n'avons absolument aucune certitude, bien sûr nous n'avons pas la certitude que les autres aient pu bien agir, mais nous n'avons même pas la certitude d'avoir nous-mêmes bien agi, et peut-être même pas la certitude qu'une seule action morale n'ait jamais été accomplie dans l'histoire de l'humanité, car nous n'avons pas de transparence par rapport à nos propres intentions. Et d'ailleurs, Kant dit, d'une certaine manière, tant mieux, c'est moralement justifié, parce que cela nous pousse à une forme de défiance et l'impossibilité de nous reposer sur une forme de bonne conscience, de nous reposer sur nos lauriers en disant « je suis un être sain ». Pour Kant, il y a une suspicion hein, quant à la personne qui affirmerait la sainteté, qui n'est pas une possibilité pour l'homme. Et c'est pour ça que le commandement moral se donne comme un impératif et comme un devoir. C'est que nous n'y sommes pas spontanément en accord, que nous devons nous l'imposer. Et que comme toute contrainte, comme toute imposition, comme toute obligation, eh bien, cela implique une part de violence. Il nous faut nous y soumettre et contraindre notre sensibilité à céder le pas à ce commandement de la raison qui doit toujours passer en premier et qui doit toujours s'imposer. Mais ça ne veut pas dire pour autant, et là-dessus, Kant va répondre notamment à un penseur qui est poète et dramaturge, hein, qui avait, pensant avec Kant, depuis Kant, mais contre Kant, avait suscité une critique. Hein, c'est le grand poète et dramaturge Schiller, qui fut aussi un philosophe, hein, et qui avait dit que finalement, avait suggéré que l'action morale ne pouvait véritablement être morale que là où nous nous y soumettions avec réticence et dans la souffrance, alors que celui qui accomplirait son devoir avec joie, avec satisfaction, serait forcément suspect. Et Kant y répond, il dit non, la tonalité de l'obéissance au devoir ne doit pas être la souffrance, il peut y avoir une forme de contentement, mais elle n'efface pas totalement cette dimension de violence dans la mesure où nous ne sommes pas spontanément en accord avec la loi et où la loi, justement, est quelque chose qui me dit « tu dois ». Hein, et si elle me dit du doigt, c'est que je ne suis pas spontanément en accord avec elle.
Alors peut-être, Maud Lecomte, avez-vous envie d'ajouter quelque chose sur le caractère suspect d'une trop grande satisfaction de soi,
oui,
quand on se comporte moralement ?
Tout à fait, François Calori a très bien expliqué qu'il n'y a pas de transparence absolue garantie de soi à soi et que la conscience d'un sujet est toujours susceptible, bien malgré elle, d'être victime d'une forme d'hypocrisie ou de mensonge à soi. De sorte que quand on vient à cette position tout à fait radicale et étonnante qui consiste à dire « nous ne sommes sûrs d'aucun acte moral, peut-être qu'il n'y a eu aucun acte moral accompli jamais dans le monde ».
En tout cas, ça c'est la personne la plus morale qui dira cela. C'est elle qui éprouve ce que vous venez de dire.
Tout à fait.
C'est le signe, son propre soupçon est le signe de sa grande moralité.
Tout à fait. Cette extrême prudence et modestie qui consiste à comparaître constamment soi-même devant ce tribunal de la raison pure pratique, devant ce tribunal de la conscience morale, en ayant toujours des doutes. Est-ce que j'ai voulu la chose uniquement par intérêt pragmatique, en vue de mon bonheur, ou est-ce que j'ai voulu la chose et agir de telle manière, en vue de la loi morale et uniquement par pur respect pour elle ? Et vous citiez tout à l'heure deux exemples, celui du religieux et celui qui veut contenter ses contemporains et plaire à ses contemporains. Il y a un exemple très parlant que Kant donne pour faire la différence dans les fondements de la métaphysique des mœurs entre agir par devoir et agir simplement conformément au devoir. C'est l'exemple du commerçant qui pratique les mêmes prix pour tous. Quel que soit son client, il affiche le même prix pour tel et tel article. Est-ce qu'il le fait par vertu ou est-ce qu'il le fait par intérêt ? S'il le fait par pur respect pour la loi morale, parce qu'elle lui dicte de faire ainsi, alors, dit Kant, il y a des chances qu'il soit vertueux. Si en revanche il le fait parce que cette stratégie commerciale lui permet de garantir la prospérité de son commerce et d'avoir peut-être plus de clients ou d'être réputé honnête, alors il n'est absolument pas vertueux. Même si son acte est conforme à la loi morale, il n'est pas vertueux parce que ce n'est pas la loi morale qui a été l'unique élément moteur de sa volonté. Et donc ce qui se joue ici, c'est l'idée au fond que la loi morale seule doit être le critère et l'élément moteur décisif de notre agir. Enfin, pour ajouter un mot sur la dimension non ascétique, non rigoriste de l'éthique de Kant, évidemment, c'est une éthique qui n'est pas austère, qui n'est pas sévère, Kant l'a répété à maintes reprises, particulièrement dans la doctrine de la vertu, où il fait contre toute attente un éloge du vertueux Épicure, en disant ce qu'il y a de grand dans la pensée épicurienne de la vertu, c'est que cette vertu est toujours accomplie de bon gré, avec joie, elle est même attrayante, plaisante, on la fait avec une sorte de facilité de cœur, de sorte qu'elle n'est jamais faite de manière contrainte, de manière sévère, de manière austère, mais elle a un visage riant. Et ça nous amène à une autre idée qui est extrêmement importante chez Kant, qui est que, contrairement aux reproches que lui adressera plus tard Hegel, sa morale n'est pas du tout un ascétisme rigoriste, mais elle accorde une place importante au bonheur, même si évidemment le bonheur n'est jamais l'élément déterminant, ça n'est ni le principe ni la finalité que nous poursuivons quand nous voulons agir de façon vertueuse dans le monde, mais le bonheur se réinvite en quelque sorte à trois reprises dans la morale de Kant. Il se réinvite tout d'abord parce que Kant fait du bonheur d'autrui une fin et un devoir indirect pour moi. Deuxièmement, le bonheur se réinvite dans la morale, cette fois-ci comme mon bonheur, car mon bonheur, dit Kant, certes n'est pas l'objet d'un devoir, mais c'est du moins une condition qui est destinée à favoriser l'accomplissement du bonheur. En d'autres termes, un homme qui serait trop malheureux, qui serait excessivement malheureux, cela constituerait un frein à l'exercice de sa vertu. Mmh. Tout à fait.
Alors, j'ai bien entendu votre insistance à introduire malgré tout la notion de bonheur chez Kant. C'est un sujet qui est légèrement à la marge de notre question de ce matin. Je voudrais qu'on continue à propos de cette voix intérieure qui dit d'abord le devoir et fondamentalement le devoir. Alors j'aimerais savoir si l'impératif catégorique est toujours positif. Tu dois faire ceci, cela. Ou s'il n'est pas très souvent et avant tout négatif. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas tuer, bien évidemment. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce problème, François Calori ?
Oui, alors il peut prendre les deux formes, hein, un impératif qui serait positif, un impératif négatif dans son application aux différentes actions qui nous sont commandées. Mais peut-être pour l'expliciter, faut-il remonter en fait à l'énoncé, à la formule même de cet impératif catégorique qui nous permettra d'éclairer les choses. Car ce que va montrer Kant, c'est qu'en fait, il n'y a pas une multitude hein, de commandements pratiques qui constitueraient comme une liste, hein, un catalogue de devoirs, une sorte de décalogue que nous devrions mettre en application. Mais en un sens, tous nos devoirs peuvent être ramenés à une formule qui est une formule unique, qui constitue le contenu même de la loi morale, et un contenu qui est extrêmement simple, puisqu'il consiste uniquement dans la capacité ou non que nous avons à universaliser la maxime qui est la nôtre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'à la maxime ? C'est le principe subjectif de notre vouloir, c'est-à-dire hein, la décision que subjectivement nous allons prendre, la règle d'action que nous nous donnons à nous-mêmes. Et ce que nous dit Kant, c'est que le test qui nous permet de savoir si cette maxime, la décision que nous prenons est morale, c'est sa capacité à être universalisée et à pouvoir supporter ce test d'universalisation, c'est-à-dire à ne pas valoir que pour moi-même dans des circonstances qui sont des circonstances déterminées. Ce qui fait que le contenu de la morale, en lui-même, la loi morale s'énonce positivement.
Oui.
Agit de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Et donc on voit bien ici, la formulation est positive, agit de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Mais dans l'application de cette maxime-là, pour répondre à votre question, elle peut amener à des impératifs négatifs qui sont des interdictions. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas tuer. Et on pourrait montrer...
Alors, faisons le test d'universalité.
Alors, ici, ça concerne ce que Kant appelle les devoirs qui sont des devoirs parfaits. Mmh. Ces devoirs parfaits sont des devoirs qui vont s'énoncer de façon négative comme des interdictions catégoriques. Mmh. Si je prends, par exemple, le vol, pourquoi est-ce que le vol est quelque chose qui n'est pas susceptible d'une universalisation de la maxime ? Eh bien, il s'agit de montrer hein, que celui qui prétend voler, prétend s'approprier quelque chose pour lui-même qui appartient à quelqu'un d'autre, mais dans le même geste, nie la propriété tout en l'affirmant. C'est pour ça qu'il y a une véritable contradiction dès lors qu'il est universalisé. C'est-à-dire que si jamais toute propriété pouvait être dérobée de façon universelle, il y aurait à la fois l'affirmation et la négation de la propriété. Il y a ce qu'on appelle dans le commentaire de Kant, il y a une contradiction dans le concept. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'universalisation révèle qu'il y a dans le concept de vol quelque chose qui est contradictoire, puisque universalisé, il affirme le vol et en même temps il affirme la propriété et en même temps il nie la propriété.
Il dit la valeur de la propriété, puisque voler c'est désirer la propriété. Et en même temps, dire que tout le monde peut voler, c'est d'évaluer la propriété. Donc, il y a quelque chose de contradictoire.
Prenons l'exemple de la fausse promesse, qui est un type de mensonge aussi. Eh bien, si j'universalise ma maxime, qui est de dire que quand on fait une promesse, on peut faire une fausse promesse, on voit bien qu'il y a lorsque la maxime est universalisée en loi, eh bien, il y a une contradiction ici, puisque c'est le concept de promesse qui explose en un sens, puisque si toutes les promesses peuvent être des fausses promesses, il n'y a plus de promesses et plus personne ne peut croire aux promesses. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une contradiction ici dans le concept qui s'exprime dans ce test universalisabilité.
Et le meurtre, qui est quand même un très grand interdit. Expliquez-moi le test d'universalité.
De la même façon, il y a une contradiction ici, puisque ici, on pourrait dire qu'on ne respecte pas aussi la valeur de l'humanité hein, et qu'il y a ici une contradiction qui serait à l'œuvre, hein, qui fait que là aussi, il y a une interdiction. Hein, mais peut-être pour montrer la différence qu'il y a, pour pas trop seulement aller dans le sens de la... Parce que le temps passe, et dans le sens de l'interdiction négative, il y a un autre type de devoir pour Kant, qui sont les devoirs qu'il appelle imparfaits, hein, mais qui, là aussi, sont positifs et qui sont catégoriques.
Oui.
L'exemple qu'on veut prendre, c'est nous avons le devoir de cultiver nos facultés. Hein, pourquoi est-ce que il vaut mieux écouter l'émission de philosophie sur France Culture plutôt que de passer son temps sur le sofa à regarder des vidéos TikTok? Eh bien, il y a un devoir qui est un devoir positif de cultiver ses facultés.
Alors, j'ajoute juste que je préférerais aussi que ce soit par plaisir qu'on écoute.
Mais c'est par plaisir aussi,
mais je vous laisse continuer.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a ici un impératif qui ici s'exprime positivement, hein, c'est l'idée que il n'y a pas de contradiction dans le concept ici. On peut très bien concevoir qu'il n'est pas contradictoire que les gens restent sur leur sofa à ne rien faire sans cultiver leurs facultés. Et on peut imaginer un monde qui soit un monde ainsi non contradictoire, dans lequel les gens ne cultivent pas leurs facultés et se laissent aller, se laissent vivre. Mais Descartes, ici, il y a une contradiction, non pas dans le concept, mais dans la volonté. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir d'un tel monde, hein, parce que, justement, en tant que nous sommes des êtres qui sont des êtres finis, des êtres qui ne sommes pas parfaits, mais qui avons la possibilité de perfectionner nos facultés, eh bien, le monde que nous voulons, c'est un monde dans lequel, hein, nous pouvons, justement, compter les uns sur les autres et sur les facultés les uns des autres, hein, et il y a donc cette dimension qui s'intègre. Mais ici, l'impératif se dit positivement, ce n'est pas une interdiction, mais avec une forme de degré dans l'intensité avec laquelle on peut suivre. Certains vont consacrer toutes les minutes de leur journée à cultiver leurs facultés. Kant n'impose pas une vision maximaliste ainsi. Mais il dit, nous avons le devoir, chacun va cultiver les facultés qu'il veut, avec une sorte d'ouverture dans le choix possible de ses facultés, et avec un degré qui fera que certains auront plus de mérite que d'autres, mais que ceux qui ne cultivent pas constamment leurs facultés ne seront pas pour autant immoraux, vous voyez.
Et donc, je vois, mais j'ai encore des questions, je suis désolée. Alors peut-être, Maëlle Kant, le tu-dois positif, tu dois cultiver tes facultés par exemple, je le trouve moins évident, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas gênés par l'idée que nous formions un monde d'individus qui se laissent un peu aller, après tout, pourquoi pas, au plaisir de vivre, etc. Je sens bien, François Calori, que vous préféreriez un monde où tout le monde se cultive et cultive toutes ses facultés, le jugement, le goût, la rationalité d'une façon générale. Mais enfin, peut-être là, l'universel dans l'approche n'est pas pleinement réalisé. Alors que le « tu dois » négatif, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir. Là, on comprend bien, parce que dans le meurtre, si je me dis « il faut tuer, je veux tuer », alors sauf dans certains régimes qui ont quand même montré que le monde pouvait tourner à l'envers, si je dis « tuer est une bonne chose », thèse d'universalisation, ça veut dire je suis d'accord qu'on me tue. C'est ça la contradiction pour Kant. Donc, je trouve que ça marche mieux, le thèse d'universalité, sur des interdits que sur des devoirs positifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Maëlle Kant ?
Alors peut-être en deux points. Le premier point, c'est que ce devoir de cultiver ses propres facultés, ce devoir de parfaire tout ce que la nature a pu nous donner, aussi bien nos dispositions physiques, intellectuelles, morales, etc., c'est l'un des premiers devoirs parfaits de l'homme envers soi, dit Kant. Et dans la doctrine de la vertu, il accorde une éminente place à ce devoir de perfection de nos facultés, qui a déjà été cité d'ailleurs dans les fondements de la métaphysique des mœurs de 1785. Et pourquoi dit-il cela ? Pourquoi met-il une sorte d'insistance sur ce premier devoir parfait envers soi, qui est celui de se cultiver? C'est parce que on doit cultiver toutes nos facultés sans savoir encore celles qui pourront être un jour mobilisées par le devoir moral. C'est comme si on avait le devoir d'entretenir nos moyens, nos outils, en vue d'une fin qu'un jour, la raison pure pratique pourra nous prescrire à titre moral. Donc c'est une sorte, finalement, de devoir qui prépare à la réalisabilité de tous les autres devoirs. Et j'ajoute que le test d'universalisation dont on parlait à l'instant, qui permet de savoir quelles sont parmi toutes nos maximes d'action, celles qui sont morales, celles qui constituent des devoirs et celles qui ne le sont pas et qui sont amorales, mais qui peuvent néanmoins avoir une utilité dans notre vie, c'est un test qui suppose non seulement que la maxime ne soit pas contradictoire lorsqu'elle est universalisée en loi pour l'entendement, c'est-à-dire elle ne doit pas contenir, ça c'est le premier réquisite de contradiction logique, mais elle ne doit surtout pas contenir, comme François l'a rappelé, de contradictions pratiques. C'est-à-dire qu'il faut que notre volonté puisse la vouloir comme universelle, sans contradiction.
Donc je veux bien être tuée, si je suis pour le meurtre, c'est contradictoire. En général, on veut tuer les autres et pas soi-même. Donc l'interdit du meurtre est très bien fondé, non pas dans Dieu ou le divin, mais dans notre raison intérieure.
Oui, et pour répondre à cette difficulté qui est comment trier au fond et sélectionner parmi toutes nos maximes celles qui sont morales, celles qui ne le sont pas, Kant prend le soin conscient qu'il est que la loi morale, le tudois, l'impératif catégorique moral dans sa forme vide, dans sa vacuité, est peut-être trop abstrait ou trop général, il a le souci, avant d'en déduire des devoirs déterminés, de vertus parfaits ou imparfaits envers soi ou envers autrui, il a le souci de construire ce que j'appellerais une médiation, un intermédiaire, une sorte de courroie de transmission entre cette loi morale qui dit juste « tu dois » et les impératifs catégoriques moraux, les maximes qui disent « tu dois ne pas tuer, tu dois respecter ton prochain, etc. » Il est soucieux de cela, et c'est la raison pour laquelle il donne non pas simplement une formule ou une formulation. François a rappelé tout à l'heure la première et la plus célèbre de toutes ces formules de l'impératif catégorique moral, qui est d'agir d'après la maxime qui fait qu'on puisse universaliser sa maxime en loi. Mais il y a également deux, voire trois autres formules qui viennent compléter celle-là et qui donnent beaucoup plus de concrétude. La deuxième formule de l'impératif, c'est « agis comme si la maxime de ton action » devait être érigé par ta volonté en loi universelle de la nature. Et là, il nous demande de faire comme si notre maxime pouvait être pensée et voulue, sans contradiction ni logique ni pratique, comme une loi de la nature. Troisième formule de l'impératif, agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité, en toi-même comme en autrui, comme une fin en soi, et pas simplement, jamais simplement, comme un moyen. C'est la formule du respect de la personne humaine comme fin en soi, qui permet justement d'invalider la maxime ou de considérer comme non morale la maxime, par exemple, de tuer son prochain quand ça nous arrange. Et enfin, il y a une quatrième et dernière formule de cet impératif catégorique moral qui vient encore élargir et déplacer la focale en disant « agis d'après la maxime qui fait que tu puisses te considérer toi-même comme un sujet co-législateur d'un règne des fins. C'est-à-dire, au fond, me considérer moi-même comme un membre d'un monde intelligible moral qui serait composé de tous les êtres raisonnables libres sous des lois morales. Et là, on voit une forme d'intersubjectivité morale se dessiner à partir de cet impératif catégorique moral qui, au point de départ, ne nous dit rien, mais qui va rayonner vers une communauté d'êtres moraux susceptibles de co-légiférer.
J'adore la formule de Kant dans un texte qui précède certes son grand livre sur la raison pratique de 1788, puisque c'est dans les fondements de la métaphysique des mœurs de 1785, un texte qui se veut un peu plus abordable et où peut-être laisse-t-il de temps en temps des zones un peu énigmatiques. Sa formule, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans l'impératif moral évoqué, indiqué par la raison pratique. Il dit « nous comprenons du moins son incompréhensibilité ». C'est un aveu. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et ça justifie aussi de n'être pas pleinement convaincu nécessairement par Kant. Après tout, l'injonction morale, comment peut-on être sûr qu'elle ne vient pas de nos émotions, de notre sensibilité? Nous avons évoqué la semaine dernière les Lumières écossaises, Adam Smith, la sympathie, comment elle naît, comment elle fait qu'on se comporte moralement avec les autres. C'est vrai que dire que c'est que la raison, c'est un peu incompréhensible. Et je trouve ça magnifique que Kant, un jour, l'ait reconnu. François
oui,
Callery.
Oui, il reconnaît cette incompréhensibilité. Et il la reconnaît non pas comme quelque chose qui serait à regret et il resterait quelque chose à démontrer ou à prouver, hein, mais c'est véritablement quelque chose qui est affirmé par lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans ce commandement pratique, rationnel, pur et immédiat qui me pousse à agir. Et cette incompréhensibilité, c'est l'incompréhensibilité de la liberté elle-même. C'est-à-dire que c'est le comprendre comment la raison vient ainsi catégoriquement m'obliger à agir, ça reviendrait à comprendre la liberté. Or, comme on l'a dit dans la critique de la raison pure, il n'y a pas de connaissance possible du suprasensible et il n'y a pas de connaissance possible de ce qu'est la liberté. Et dès lors, on se heurte ici à quelque chose qui relève d'une incompréhensibilité, mais d'une incompréhensibilité qui, en un sens, va rester indépassable, mais qui n'est pas une objection par rapport à ce que Kant a établi, qui en un sens s'inscrit parfaitement dans l'architecture systématique du projet de la critique, parce que justement, il ne s'agit pas pour nous, dans la démarche pratique, de commencer par la liberté, et vous le verrez demain dans l'émission
qui consacre à la
liberté. Il ne s'agit pas de commencer par la liberté, d'en établir la réalité et d'en découvrir la nature, puisque cela est rendu impossible par la critique de la raison pure, mais au contraire, et cela dans la troisième partie des fondements, Kant n'en a pas encore véritablement mesuré la portée, et c'est quelque chose qui reste en attente de ce que va dire la critique de la raison pratique, c'est vraiment un aspect de nouveauté de la critique de la raison pratique, mais ça va être de renverser la perspective, et de montrer qu'il nous faut partir de la loi comme un donné, quelque chose que la raison nous impose, qui est ce que Kant appelle de façon, là aussi énigmatique, un fait, mais un fait de la raison, raison, et que ce fait de la raison, cette présence en nous d'un commandement catégorique, nous oblige à nous penser sous l'idée de liberté, c'est-à-dire nous oblige à penser ce qui par ailleurs est pour nous incompréhensible, à savoir que nous sommes libres, et à admettre que la raison pratique puisse ainsi, de façon pure, nous déterminer.
Puis c'est aussi l'idée que la raison théorique, c'est tout à fait kantien de dire ça, la raison théorique, il en a montré les limites, elle ne peut pas complètement connaître et comprendre la raison pratique. Il y a quelque chose qui est exorbitant pour elle par rapport au cadre de la connaissance. C'est ça aussi qu'il avoue en disant qu'une part de la raison pratique restera incompréhensible.
Oui, ce commandement absolu, en un sens, échappe à une raison théorique qui ne connaît pas, qui ne peut pas connaître l'absolu. Hein, mais au contraire, comme on l'a un tout petit peu dit tout à l'heure, c'est à partir de ce commandement absolu de la moralité que nous pourrons récupérer aussi ce que la raison théorique nous avait interdit de pouvoir véritablement connaître, à savoir l'affirmation de la liberté, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme.
C'est Dieu, longtemps, dont on disait qu'il était la source des commandements moraux et qui était incompréhensible pour l'homme. Essayons de conclure sur ce point, si vous le voulez bien, Maëlle Kant. Kant a mis à l'intérieur de l'homme, la faculté morale. C'est lui qui se donne à lui-même des commandements moraux. Et l'incompréhensible aussi est à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire cette raison pratique extraordinaire.
Tout à fait. Pour Kant, il est impossible de prouver théoriquement l'existence de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, du reste, il refuse de fonder la morale sur Dieu ou sur des commandements divins. Il s'oppose notamment à Crusius, qui a voulu faire une morale théologique. Et Kant dit non, si on veut récupérer la théologie, c'est en faisant une théologie morale, c'est-à-dire une théologie fondée sur les idées de la raison pure pratique. Et pour finir peut-être sur cette incompréhensibilité, oui, de l'impératif catégorique moral, elle repose au fond sur l'incompréhensibilité de la liberté, et pas simplement de la liberté comme autonomie, la liberté sous la loi morale, mais d'une liberté plus profonde dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, qui est une liberté plus originaire, qui est une liberté première, qui est une liberté, dit Kant, comme énigme insondable pour la raison, qui est notre liberté de choix,
et qui fait qu'un
être fini peut toujours aussi choisir contre la loi morale.
If loving you is wrong, I don't want to be right. If being right means being without you, I'd rather live alone doing that. Your mama and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what you people say. My friends tell me it's no future in loving a married man. If I can't see you when I want, I'll have to see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is so wrong, baby, I don't wanna be right. Am I wrong to fall so deeply in love with you? When you have a wife and two little children depending on you two. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Or when you have someone else at home who needs you too?
t'aimer est mal, eh bien je ne veux pas avoir raison et être dans la... Le bien, c'est ce que chante la Millie Jackson. If loving you is wrong, I don't wanna be right. 1974. Merci beaucoup, Maëlle Lecamp, François Callery. Les références de vos travaux sont sur le site de l'émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème les pouvoirs de l'influence. Voici le pourquoi du comment.
Comment peut-on être influencé ? Il arrive parfois, pour expliquer l'une de nos actions que nous n'assumons pas entièrement, par exemple, une action que nous regrettons, que nous nous reprochons, il arrive parfois que nous employons une expression un peu étrange, nous disons « oui, je l'ai fait parce que j'ai été influencé ». J'ai été influencé par quelqu'un ou quelqu'une, j'ai été en quelque sorte non seulement inspiré, mais plus profondément peut-être, et d'une manière un peu mystérieuse, j'ai été soumis à non seulement à l'imitation, mais à l'importance de ce quelqu'un avait pour moi, on peut dire parfois aussi à son emprise, à une sorte de pouvoir que quelqu'un a exercé sur mon esprit et qui m'a fait faire quelque chose, peut-être sans que je le veuille vraiment, et peut-être pour le pire plutôt que pour le meilleur. Ainsi, nous disons, certains criminels peuvent-ils dire, par exemple, eh bien oui, qu'ils ont été influencés par un autre, par un méchant, ou par une doctrine, ou par une idéologie qui les a imprégnés, inculqués, qui s'est emparé d'eux jusqu'à leur permettre de commettre le pire. Ainsi, cette notion d'influence nous paraît-elle d'abord être le comble d'une emprise peut-être passive, mais possible sur nos esprits qui sont pourtant libres en théorie, en principe. Comment peut-on être influencé par quelqu'un d'autre au point d'être dépossédé de sa propre liberté ? Et cette notion d'influence revient aujourd'hui aussi très profondément dans les effets des humains les uns sur les autres, dans nos relations sociales, par exemple dans cette étrange et mystérieuse, en tout cas pour moi ou pour ma génération, catégorie qui apparaît sur les réseaux sociaux. Ceux et celles que l'on appelle des influenceurs ou des influenceuses qui ont en effet des effets assez profonds sur les comportements des uns et des autres. Et cette notion d'influence a donc quelque chose de mystérieux qu'il faut pouvoir affronter et qui a très rarement été étudié par les philosophes, même si évidemment, comme tous les phénomènes profonds, ils l'ont quand même étudié, parfois sans le dire, sans employer cette notion. Un des rares à avoir étudié cette notion pour elle-même est le psychanalyste un peu dissident et qui avait d'ailleurs d'abord été prêtre et qui ensuite a développé une philosophie très profonde des relations humaines, François Roustang. François Roustang est connu pour diverses théories, mais son livre de 1990, intitulé tout simplement « Influence », ce livre doit être relu aujourd'hui pour comprendre de quoi l'on parle. Dans un de ses chapitres, curieusement intitulé, je cite, « La psychologie, virgule, notre astrologie », il rappelle la définition de l'influence qui apparaît au latin médiéval comme une action attribuée aux astres sur la destinée des hommes. Oui, ceux qui croient à l'astrologie, qui regardent leur horoscope, ils croient que être né sous le signe du scorpion ou du verseau, eh bien, cela influence de façon très profonde notre action. Plus généralement, dès la fin de ce même siècle, dit-il, dès le XIIIe siècle, le mot « influence » L'influence désigne, je cite, et là c'est très précis et très important, une action lente et continue exercée par une personne ou une chose sur une autre personne ou une chose. Effectivement, lente et continue peut être inconsciente, alors à ce moment-là on comprend qu'un être humain puisse en influencer un autre, puisse accéder à la profondeur de son esprit par l'action de son propre esprit et pas seulement par une imitation extérieure ou par une conviction intellectuelle. Ce pouvoir d'agir en profondeur les uns sur les autres, peut-il être exercé pour le meilleur et pas seulement pour le pire ? C'est ce que pense François Roustang. Il pense que la psychanalyse a eu du mal à le reconnaître dans le transfert. Il pense que pour se libérer les uns les autres et pas seulement pour se dominer les uns les autres, il faut se poser la question de notre influence les uns sur les autres.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Luce Mourant et Nassim El-Kabli et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Victoire Mellet, Luna Adjla. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.